France Culture, il est midi et demi, bienvenue à tous. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Puissant chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, pilier du régime, est décédé ce matin d'une crise cardiaque à l'âge de 79 ans après avoir arraché la démission du président Bouteflika. Il était très vite devenu impopulaire au sein du mouvement de contestation en apparaissant comme le garant de la survie du système.
En pleine crise des feux de forêt en Australie, le premier ministre conservateur a choisi de contre-attaquer.
Oui, Scott Morrison, contesté pour son manque d'action contre le réchauffement climatique, juge qu'il serait irresponsable de tourner le dos à l'industrie du charbon et à ses milliers d'emplois.
Voilà des années que l'on sait les congrégations religieuses gangrénées par les déviances de certains prêtres, et pourtant chaque révélation n'en reste pas moins sordide.
Oui, les légionnaires du Christ viennent de publier un rapport interne sur les abus sexuels perpétrés au sein même de leur congrégation. Au total, 175 mineurs âgés de 11 à 16 ans ont été abusés entre 1941 et 2019. En France, pas de répit en vue. Cette semaine, les grévistes mobilisés contre la réforme des retraites veulent maintenir la flamme pendant les fêtes, notamment dans les transports, tandis que l'exécutif doit lui annoncer prochainement le calendrier des discussions qu'il prévoit au début de l'année prochaine. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Marc Ivaldi, directeur d'études à l'EHESS et spécialiste des transports. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
2019 s'achève. 2019 ou l'année de la victoire du langage. On va s'armer de mots avec notre invité, la philosophe et philologue Barbara Cassin va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes à l'occasion de la parution d'un dialogue, d'un échange avec le philosophe Alain Badiou, homme-femme philosophie. On va parler de langue, de philosophie et de genre et de mélange des genres, donc ensemble jusqu'à 13h30.
Merci et à tout à l'heure. Depuis le 26 mars 2019, il y a presque 9 mois, jour pour jour, il était devenu en Algérie tout à la fois le fossoyeur et la dernière figure du système. Et ce matin, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, celui-là même qui avait signé la fin de la partie pour Abdelaziz Bouteflika, tout en cristallisant sur son seul nom le mécontentement de la contestation populaire, est mort. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors de lui, on ne sait en réalité presque rien, si ce n'est qu'il devait sa longévité à sa fidélité au président déchu, en particulier grâce à sa proximité avec Saïd, le frère de l'ancien chef d'État. Et c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle, Louise, il était donc depuis des mois maintenant la cible des critiques des manifestants qui lui reprochaient au fond d'avoir retourné sa veste pour se présenter comme le sauveur.
Oui, tout changer pour ne rien changer, lâcher Abdelaziz Bouteflika pour in fine sauver le système. C'était le pari d'Ahmed Gaïd Salah, 79 ans, pilier du régime depuis l'indépendance en 1962, mort la nuit dernière d'un arrêt cardiaque, selon un communiqué de la présidence et plusieurs médias algériens. C'est lui qui a supervisé la période de transition entre la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril dernier sous la pression de la rue et l'élection il y a 10 jours d'Abdelmadjid Tebboune, lui aussi un homme du système rejeté par les Algériens dont une minorité a participé au scrutin. Vendredi dernier, des dizaines de milliers de manifestants sont encore descendus dans les rues d'Alger ou d'Oran pour réclamer le départ de l'ensemble de l'élite au pouvoir et le retrait de l'armée de la vie publique.
L'armée, véritable colonne vertébrale du pays dont Gaïd Salah, Louise, était l'incarnation.
Oui, engagé dès 17 ans dans la lutte contre le pouvoir colonial français, selon sa biographie officielle. Il était au sein de l'armée l'un des derniers représentants des anciens combattants de la guerre d'indépendance. Son ascension, il la doit à un homme, Abdelaziz Bouteflika, qui le nomme chef d'état-major de l'armée en 2004, poste auquel il a battu des records de longévité. Mais il a donc lâché son protecteur au printemps dernier pour tenter de calmer le mouvement de contestation populaire. Alors sa mort remet-elle en cause la feuille de route du régime? Pas sûr. La présidence algérienne annonce déjà le nom de son successeur, le général Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée de terre, un intime de Gaïd Salah. Pas de quoi rassurer les Algériens qui crient leur aspiration au changement 10 mois après le début de la contestation.
Merci Louise Baudet. Le difficile apprentissage de la démocratie dans le pays cette fois-ci le plus peuplé d'Asie centrale, en Ouzbékistan. Quelques 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour les premières élections législatives depuis que l'actuel président a lancé une prudente politique de réforme et d'ouverture à la suite de la mort de son brutal prédécesseur, dont le régime largement inspiré de l'autoritarisme soviétique aura fait régner la peur près de 3 décennies durant. Alors le choix restait encore limité à 5 partis pro-gouvernementaux, aucun indépendant ni opposant n'ayant été autorisé à participer. Mais pour la première fois, force est de constater que ces formations ont été mises en concurrence et encouragées à se différencier. Les premières estimations sont attendues dans la journée. En Afghanistan, là-bas, l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, initialement prévue le 19 octobre dernier, puis le 14 novembre, avait été à chaque fois reportée pour des raisons techniques. Mais hier, près de 3 mois, donc après le scrutin présenté comme le plus propre jamais organisé dans la jeune démocratie, les premiers résultats préliminaires ont finalement été publiés. Ils donnent le président sortant, Ashraf Ghani, vainqueur à la majorité absolue dès le premier tour, avec un peu plus de 50% des suffrages, soit 11 points de mieux que son principal adversaire et chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah. Une victoire non seulement accueillie dans une relative indifférence populaire, mais par ailleurs aussitôt contestée donc par celui qui en 2014 avait déjà dû concéder sa défaite à l'issue d'un scrutin entaché lui de graves irrégularités, ce qui fait craindre à certains que ces élections ne débouchent à nouveau sur une crise constitutionnelle. D'autant qu'outre les allégations de fraude, cette élection aura attiré moins d'un électeur sur 5, ce qui signifie que la légitimité du président sortant pourrait par ailleurs pâtir de ce taux de participation historiquement bas. Enfin, quand la droite radicale montre sa force en Croatie, hier, l'électorat de gauche a beau s'être rassemblé autour de l'ancien Premier ministre Zoran Milanovic, arrivé en tête de l'élection présidentielle avec un peu moins de 30% des voix, ce premier tour aura surtout révélé que même divisée, eh bien la droite dure continue de progresser. La présidente conservatrice sortante, Grabar Kitarovic, qui aura passé le plus clair de la campagne, a louvoyé entre l'aile modérée et la frange la plus nationaliste de son parti, a recueilli 26,7% des suffrages. Quant au chanteur populiste Miroslav Skoro, lequel a notamment promis de déployer l'armée à la frontière pour empêcher les migrants de passer, eh bien il est crédité de 24,4% des voix, ce qui signifie que le probable report des voix devrait permettre à la droite de l'emporter lors du deuxième tour prévu le 5 janvier prochain, date à laquelle d'ailleurs le pays aura pris pour 6 mois les rênes de la présidence tournante de l'UE. Si côté israélien, les autorités estiment ne pas avoir à commenter les nouvelles en provenance de médias étrangers, le simple fait que ces informations faisant état de frappes sur le sol syrien ne soient jamais démenties constitue en soi une forme d'aveu implicite. Selon le média d'État Sana, la Syrie dit avoir été la cible hier soir de missiles tirés depuis l'État hébreu dans la banlieue de Damas, une attaque dans laquelle au moins 3 combattants pro-régime auraient trouvé la mort. Frédéric Mettezo, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Alors depuis le début du conflit syrien, c'était en 2011, il ne fait de mystère pour personne que l'armée israélienne a déjà mené des centaines de frappes, le plus souvent contre des cibles iraniennes ou de milices pro-Téhéran, deux alliés du régime de Bachar el-Assad. Et assez paradoxalement, quand bien même, on l'a dit, l'État hébreu donc n'assume pratiquement jamais la responsabilité pleine et entière de ces attaques, eh bien Frédéric, celles-ci n'en font pas moins l'objet d'une véritable opération de communication.
Et oui, ne pas démentir, c'est confirmer implicitement qu'Israël est à l'origine de ces frappes. Quand elles visent Damas, le djihad islamique à Gaza, le Hezbollah au Liban ou même l'Irak, eh bien l'armée israélienne veut faire comprendre à Téhéran qu'elle peut frapper ses alliés et ses intérêts où bon lui semble. Il y a en quelque sorte une routine à ce type d'action militaire, mais routine toujours à la une, encore ce matin, des médias israéliens. Depuis 10 ans qu'il est Premier ministre, Benjamin Netanyahou désigne l'Iran comme ennemi numéro 1 d'Israël. C'est son obsession. Tenez Thomas, un exemple. Le 4 décembre dernier, à Lisbonne, où il rencontrait le secrétaire d'État américain, il est arrivé en disant, je le cite, « Le premier sujet que je vais mettre sur la table est l'Iran, le deuxième sujet est l'Iran, c'est aussi le troisième et tous les autres. » Pour le gouvernement israélien, l'Iran est une triple menace avec le nucléaire, les missiles et l'influence avec ce que l'on appelle symboliquement l'autoroute chiite qui va de Téhéran jusqu'à la frontière israélo-libanaise via Bagdad et Damas. Voilà pourquoi Israël suit très attentivement les soulèvements populaires au Liban, en Irak et en Iran. Netanyahou a toujours milité contre l'accord sur le nucléaire iranien que les États-Unis ont fini par dénoncer, mais cette obsession iranienne pourrait le desservir à long terme. Ça tourne à la névrose chez lui, nous a confié un diplomate européen qui échange régulièrement avec Netanyahou. Je le cite encore, « Cela fait 10 ans qu'il nous dit que l'Iran est sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. »
Merci Frédéric Mettezo en direct de Jérusalem. Rentré précipitamment ce week-end de ses vacances à Hawaï, le Premier ministre australien s'est rendu hier auprès des pompiers, luttant depuis des mois maintenant contre des incendies dévastateurs, avant toutefois de se montrer incisive sur les questions à la fois économiques et climatiques. Ce matin, en réponse à ceux qui lui demandent du volontarisme sur la question environnementale, Scott Morrison a jugé qu'il serait irresponsable de tourner le dos à l'industrie du charbon et à ses milliers d'emplois. Quoi qu'il en soit, et même si une amélioration des conditions a pu être observée aujourd'hui, des centaines de feux échappent toujours à tout contrôle. Les incendies qui ont déjà détruit une superficie équivalente à la Belgique. Nathanaël Charbonnier a joint François Vantôme, journaliste basé à Sydney, témoin de cette situation donc absolument dramatique.
C'est assez bizarre comme atmosphère ici à Sydney. Même savoir qu'on n'est qu'à 100 km de ces incendies, mais on est impacté tous les jours avec ces fumées, cette odeur permanente, ce ciel gris et ce soleil qui est un peu orangé, une couleur très particulière. Et donc tous les jours, on se réveille, on se demande mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tête, quoi. Il y a une situation un peu d'apocalypse et d'impuissance. Parce qu'à Sydney, on ne sait malheureusement rien faire. Alors, il y a bien sûr des appels aux dons, des appels pour la Salvation Army, donner un petit peu de nourriture, etc., pour aider les personnes. Parce que maintenant, on parle de victimes, il y a des morts, et il y a énormément de personnes qui ont perdu aussi leur maison. Ce qu'il n'y avait pas il y a quelques semaines, il y en avait un petit peu, mais pas autant. Donc maintenant, il y a vraiment un sentiment de tristesse permanent dans la ville et un petit peu de colère, il faut l'avouer.
En cette période de Noël, ça a des incidences aussi sur les festivités ?
Dans certaines communes, en effet, ça a des incidences et beaucoup de gens parlent aujourd'hui que c'est inapproprié de faire un feu d'artifice. Vous savez quand même, c'est le plus grand feu d'artifice presque du monde ici sur le Sydney Harbour Bridge. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui viennent. Je crois que plus d'un million de personnes sont sur les abords de l'Harbour Bridge. Et ils disent, mais est-ce qu'on a vraiment le droit de faire un feu d'artifice, ces feux, quand il y a une période de désastre, de presque de deuil national? Est-ce que c'est approprié? Est-ce que on a besoin de cela? Alors la question a été posée au mayor qui disait oui, mais bon, ça a été décidé des années auparavant, les budgets ont déjà été dégagés, c'est pas raisonnable, peut-être qu'on peut envisager que les autres années on fasse des sons et lumières qui seraient plus appropriés. Mais certaines communes dans les alentours ont déjà décidé d'arrêter et le budget qui était consacré à ces feux d'artifice sera versé pour aider les pompiers. Donc oui, il y a une grosse polémique qui est en train de se former ici. Et c'est vrai que je crois qu'à titre personnel, la question mérite d'être posée aussi.
Voilà, François Vantôme, journaliste donc basé à Sydney. Il répondait à Nathanaël Charbonnier. Si l'on sait depuis plusieurs années déjà l'Église catholique en pleine tourmente avec les révélations successives sur des scandales massifs d'agressions pédophiles commises par des prêtres ou des religieux, chaque découverte n'en reste pas moins une effroyable confidence. Selon un nouveau rapport publié samedi dernier, 175 mineurs, pour la plupart des garçons âgés de 11 à 16 ans, ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de 33 membres d'une puissante congrégation de prêtres catholiques, les Légionnaires du Christ, dont le fondateur décédé en 2008, fut longtemps protégé par le Vatican en dépit des très nombreuses plaintes portées contre lui et considérées comme des calomnies par la hiérarchie catholique. Mais depuis que le pape François, qui a fait de la lutte contre les agressions sexuelles dans l'Église catholique une des priorités de son pontificat, a levé le secret qui couvrait jusque-là ce fléau, eh bien, la vérité a donc enfin pu éclater au grand jour. Les précisions à Rome de notre correspondant Bruce de Galzin.
175 mineurs abusés sexuellement par 33 légionnaires du Christ. L'enquête a duré 6 mois, s'étend sur près de 80 ans, mais conclut qu'il y a probablement plus d'affaires d'abus. C'est une chaîne d'abus qui est mise en cause, avec des victimes qui deviennent agresseurs dans un monde où le silence et le secret sont la règle absolue. Les abus sont aussi psychologiques. Les mineurs qui entrent chez les légionnaires perdent le contact avec l'extérieur. Tout cela est institué par le fondateur, le père Massiel, qui lui seul a abusé de 60 mineurs. Il est mort en 2008, 2 ans après avoir renoncé à tout ministère, mais sans pour autant avoir été réduit à l'état laïque. Martial Massial avait une double vie, une première femme épousée sous un faux nom et 2 enfants qu'il a abusés, puis une deuxième femme et un troisième enfant. Le Vatican est au courant des abus du fondateur des légionnaires dès 1997, mais il sera protégé pendant 20 ans, notamment par le cardinal ex-secrétaire d'État Sodano, qui à 92 ans a démissionné samedi dernier de son poste de doyen des cardinaux, la semaine même où le pape décidait de lever le secret pontifical sur les cas d'abus sexuels sur mineurs.
Grève dans les transports, jour 19 après un week-end de départ en vacances compliqué pour les voyageurs. La SNCF prévoit un trafic toujours fortement perturbé ce lundi avec seulement 40% des TGV et TER en circulation, 20% des Transiliens et un quart des intercités. En Ile-de-France, l'amélioration promise par la RATP reste minime avec toujours 6 lignes de métro sur 16 fermées. Un fonctionnement normal seulement pour les deux lignes automatisées et une circulation des RER A et B cantonnées aux heures de pointe. Et puis, s'agissant de la journée de demain, cette fois-ci, il sera a priori au moins aussi difficile de réveillonner que de se rendre au travail. Les Transiliens s'arrêteront progressivement de circuler à partir de 18h jusqu'à au moins mercredi après-midi. Ou dit autrement, la suspension du mouvement n'est donc toujours pas au programme, n'en déplaise à Emmanuel Macron, sorti de son silence ce week-end depuis Abidjan pour rappeler aux grévistes qu'il est, je cite, bon de savoir faire une trêve, tout en invoquant leur esprit de responsabilité. Et puis c'est aussi dans ce contexte donc qu'Emmanuel Macron a pris la décision de renoncer à sa future retraite d'ancien président. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Alors cette annonce de renoncer à sa propre rémunération a été assez largement critiquée comme faisant partie des outils de communication populiste. On se souvient par exemple qu'un certain Donald Trump avait lui renoncé à son salaire en arrivant à la Maison Blanche. Et puis beaucoup relèvent par ailleurs que si le chef de l'État sacrifie aujourd'hui sa retraite, eh bien c'est qu'il a les moyens de le faire. Ou dit autrement, pas sûr que le message retenu soit positif. Sauf que ça n'était pas forcément là l'objectif en réalité de cette annonce, Stéphane, puisque derrière se cache une bataille entre l'exécutif d'un côté et le Sénat de l'autre.
Oui, effectivement, derrière l'annonce d'Emmanuel Macron, il n'y a pas seulement la volonté de montrer l'exemple, il y a aussi une intention de faire pression sur le Sénat dont le régime de retraite est l'un des plus avantageux qu'on puisse trouver en France, puisqu'il permet à un sénateur de bénéficier en moyenne d'une pension d'environ 4000 euros par mois pour 12 années de cotisation. Ne vous inquiétez pas, nous l'adapterons, indique depuis une quinzaine de jours le président du Sénat Gérard Larcher, mais nous le ferons, précise-t-il, une fois que le gouvernement aura voté la loi. Rien ne presse donc pour Gérard Larcher, qui par ailleurs n'entend aucunement s'aligner sur le régime général. Le régime des sénateurs est un régime autonome, explique-t-il, c'est-à-dire qu'il dispose de réserves importantes, 735 millions d'euros, et ce capital avantageusement placé rapporte de l'argent, ce qui permet effectivement, reconnaît Gérard Larcher, de verser de confortables retraites aux anciens sénateurs. Pour autant, il n'est pas question pour le président du Sénat de laisser le pouvoir exécutif mettre la main sur ce magot. Il appartient au Sénat. Gérard Larcher freine d'autant plus des quatre fers sur une éventuelle réforme de ce régime qu'il aurait beaucoup, beaucoup à perdre à enclencher le processus. Parce que dans moins de 3 mois, en mars prochain, il y a les élections municipales. Et derrière les élections municipales, il y a en septembre 2020 les élections sénatoriales. On renouvellera la moitié de la Chambre haute. Et Gérard Larcher est évidemment candidat à sa réélection, réélection qui pourrait se trouver fragilisée s'il enclenchait une réforme qui révise à la baisse les pensions des sénateurs. Le geste d'Emmanuel Macron est donc une manière de faire pression, de mettre le Sénat et Gérard Larcher en porte-à-faux sur ce sujet. D'ailleurs, plusieurs députés La République En Marche ont emboîté le pas dès hier au chef de l'État, faisant savoir qu'ils étaient prêts, eux, à aligner leur régime de retraite sur le régime général et à appliquer le nouveau système par points.
Merci Stéphane Robert. Alors je l'évoquais tout à l'heure, fer de lance de la contestation contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement. La CGT a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'instaurer la moindre trêve pendant les fêtes de fin d'année dans les transports, mais ses moyens d'action vont en réalité bien au-delà puisqu'hier la branche chimie de la CGT a elle décidé l'arrêt total des installations de la raffinerie de l'Avera près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Et cette mise à l'arrêt est évidemment un nouveau seuil dans la contestation puisque jusqu'à présent les raffineries françaises au nombre de 8 affectés depuis le début de ce mouvement de grève ne l'étaient uniquement que par des blocages. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Quel est aujourd'hui, Marie, le rapport entre ces blocages donc de raffinerie et puis le projet gouvernemental de réforme des retraites ?
Bien, pour la Fédération nationale des industries chimiques CGT dont dépendent les raffineries, pas de trêve durant les fêtes. La lutte se poursuit jusqu'au retrait du projet de la retraite à points. Que ce soit le 24 ou le 27 décembre, le 31 ou le 2 janvier, écrit le syndicat dans un tract transmis à ses adhérents, les militants CGT des industries chimiques doivent rejoindre les mobilisations organisées par la CGT. Alors les salariés des raffineries n'ont pas de régime spéciaux. En tant que salariés du privé, ils cotisent, qu'ils soient ouvriers, employés, techniciens, agent de maîtrise ou cadre, à un régime de retraite complémentaire, l'ARGIC-ARCO, l'une des 42 caisses de retraite amenées à disparaître dans le projet de réforme à points. L'absorption de cette complémentaire par le régime universel concerne 22 millions de salariés du privé. Les salariés de la branche pétrole ne sont donc pas les seuls concernés, mais la CGT est traditionnellement majoritaire dans ce secteur, ce qui explique que ces salariés du privé-là soient mobilisés depuis le début, c'est-à-dire depuis le 5 décembre. Alors des assemblées générales lieu à chaque tour de quart dans les 8 raffineries françaises. La mobilisation dure, mais ce matin, effectivement, la pression est montée d'un cran avec la décision d'arrêter la raffinerie près de Martigues. D'autres raffineries pourraient suivre, selon le secrétaire fédéral de la CGT Chimie, Emmanuel Lepine. Cela va dépendre, dit-il, des assemblées générales qui se tiendront aujourd'hui. Or, selon lui, si d'autres raffineries cessent, c'est la moitié de la capacité de production en carburant de France qui s'arrête. Il restera alors les dépôts portuaires, mais ces dépôts sont eux aussi en grève. Pas de grève, de trêve, pardon, clairement pour ce mouvement des raffineries. En l'absence de train, le carburant est bien sûr précieux pour les déplacements. La CGT touche donc là un point très sensible.
Merci Marie Viennot. Et puis pour poursuivre toujours sur cette question donc de la réforme des retraites, invité de la rédaction aujourd'hui, Marc Ivaldi, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales et spécialiste des transports. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Hakim Kasmi. Bonjour Hakim.
Bonjour Thomas Cluzel.
Une première question monsieur Ivaldi, outre la suppression pure et simple du projet de réforme du gouvernement, a priori peu probable, qu'est-ce qui, selon vous, permettrait de sortir de l'impasse avec les employés des transports publics?
C'est très difficile à dire, puisqu'on sent que effectivement les choses sont en train de se tendre. Bon, il est clair que là, c'est toute une négociation, c'est absolument impossible de dire qu'est-ce qui va se passer. La négociation porte évidemment sur ce qu'on appelle l'âge pivot, le nombre d'annuités. C'est très très difficile de dire ce qui va se passer. Il faut bien voir que il y a eu la réforme de Sarkozy-Fillon, qui avait déjà quand même changé le régime des cheminots au niveau de la retraite. On l'oublie un petit peu, mais il y avait quand même déjà une avancée dans le sens où on avait augmenté le nombre d'annuités pour pouvoir partir à la retraite. Alors on dit 57 ans et demi où on peut partir en moyenne à la SNCF, mais parce que c'est avec les autres générations, il y avait une sorte de clause du grand-père qui avait été mis en place aussi, en particulier maintenant sur les nouveaux contrats. Donc effectivement, cette réforme universelle que veut mettre en place le gouvernement relance un peu les négociations. Et c'est très très difficile de dire qu'est-ce qui va se passer. Alors évidemment, la clause du grand-père pourrait être une solution, mais c'est très difficile à dire si ça sera suffisant pour arrêter la protestation.
Alors justement, Marc Ivaldi, il y a eu des tout petits gestes de la part d'Edouard Philippe, puisque finalement la réforme va surtout concerner les roulants à partir de 1985 et les sédentaires à partir de 1980, mais la CFDT n'en veut pas, car elle explique tout comme Sud, mais aussi la CGT, en expliquant que il y aura du coup entre 30 000 et 50 000 cheminots qui du coup vont devoir passer au nouveau système. Alors qu'il faut le rappeler, Edouard Philippe avait indiqué l'année dernière, lorsqu'il avait annoncé la fin du statut de cheminot qui va entrer en vigueur dès le 1er janvier, que du coup, eh bien, que toutes les personnes ne seraient pas concernées par une réforme des retraites.
Oui, bien, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que effectivement, la négociation qui avait eu lieu pendant la réforme de la SNCF est d'une certaine manière remis sur le tapis avec la mise en place de ce régime universel et qu'il y a une renégociation. Alors, est-ce que simplement le statu quo, c'est-à-dire ce qui avait été négocié, sera suffisant? Évidemment, c'est possible. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour arrêter les syndicats. Mais enfin, le problème auquel va se heurter le gouvernement, c'est que de toute manière, ça laissera dans ces cas-là un énorme déficit sur le régime spécial des cheminots et qu'il va falloir le compenser. Or, la compensation va poser des problèmes pour la mise en place de la concurrence, parce que c'est une aide indirecte à l'entreprise SNCF.
Alors la concurrence, vous en parlez, en quoi ça sera du coup une aide à la concurrence qui va entrer en vigueur à partir de 2021?
Effectivement, si y y a compensation, ça veut dire que d'une certaine manière, s'il y a compensation de ce régime retraite, ça fait d'une manière, ça aide à faire baisser les coûts de la SNCF, alors que les autres concurrents ne vont pas avoir cette aide. Donc, il y a potentiellement un problème d'aide d'État qui peut être considéré comme un risque pour empêcher l'émergence de la concurrence.
Merci Marc Ivaldi, directeur d'études, je le rappelle, à l'EHESS, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Kim Kasmi. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, avec de la pluie relativement modérée à prévoir de la Bretagne au Pays de la Loire et sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les averses seront par ailleurs assez fréquentes des frontières allemandes au massif alpin. Partout ailleurs, les ondées s'espaceront et céderont même parfois la place à un ciel temporairement plus lumineux. Quant aux températures, elles afficheront entre 8 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Thomas Larabi pour le prochain journal de la rédaction.